Africa. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour dans un instant Mars Africa en ce samedi 13 avril 2024. Mais pour commencer, le flash info avec Mehdi Bnellal. Sbah al-khair, Mehdi.
Sbah al-khair, Hamid. Tahia al-mustamia radio Mars. موجز الأخبار. افتتح مجلس المستشارين أمس أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2023-2024 خلال جلسة عمومية ناقدت طبقا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي، إذ أبرز رئيس المجلس نعيم ميارة أو النعيم ميارة في كلمة افتتاح هذه الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تنعقد في سياق وطني يتسم بدينامية مستمرة يتخلل نقاش عمومي منتج حول قضايا ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ولا علاقة متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية. ويعقد مجلسان نواب والمستشارين يوم الأربعاء المقبل جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن الجلسة تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة 5 مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. كما أعيد أمس الجمعة انتخاب رشيد الطالبي العالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية خلال جلسة عمومية عقدت بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية. وتم انتخاب السيد الطالبي العالمي رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لصالح عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. فندت إدارة السجن المحلي خريمكا جوج ما تم تداوله ببعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض 90 سجينا للتسمم بالسجن المحلي خريمكا دون إخراجهم إلى المستشفى. وذكرت إدارة المؤسسة في بيان توضيحي أنه على عكس الادعاءات المنشورة فقد تعرض 8 سجناء لمشاكل هضمية بسبب الإفراط في الأكل، حيث ظهرت عليهم بعض الأعراض البسيطة مثل الإسهال والقيء وألم البطن، مؤكدة أن السجناء المعنيين تلقوا العلاجات الضرورية بما صحة المؤسسة وأن حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق. نهاية الموجز، عودة إلى حميد رويسي وحلقة اليوم من برنامج مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
شكرا لك ميدي. C'est parti donc mes amis pour Mars Africa. Il est 10h03, on est ensemble pour 57 minutes, toute l'actualité du football en Afrique. On ira au Cameroun avec notre ami William Tchango, parler notamment du bras de fer entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports. L'actualité au Mali, en Guinée-Conakry, au Bénin, en République démocratique du Congo, en Tunisie, en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire, la Champions League bien entendu, et puis la Coupe d'Afrique des Nations Futsal avec, c'est l'événement en Afrique, le début de cette semaine, la cérémonie d'ouverture avec la présence notamment du patron du football africain, Patrice Motsepe, qui face aux médias, Motsepe s'est dit heureux d'être de retour à la maison car le Maroc est ma maison, a-t-il insisté. Il en a profité pour témoigner sa reconnaissance au patron du football marocain, Fouzil Khaja, pour son excellent leadership en faveur du développement du football. Cela fait partie de son travail d'encourager les habitants et les gouvernements des pays qu'il visite à promouvoir le leadership, et il est totalement confiant par rapport à son frère. Ce sont ses mots à Patrice Motsepe, son frère Fouzil Khaja. Tout le pays doit soutenir la FMF et son leadership. Je remercie la Fédération marocaine pour le travail effectué dans le cadre de la CAN de futsal et je la remercie d'accueillir l'événement. Il arrive que le Maroc soit le seul pays à manifester sa foi en l'Afrique et son souhait d'aider, a-t-il admis. Évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations futsal se poursuivra jusqu'au 21 avril prochain. On parlera de ça, on parlera évidemment de Champions League, notamment avec dans quelques minutes Elisabeth Goulet qui nous parlera de ses supporters, hein, de la SEC d'Abidjan, les supporters qui grognent contre le patron. Elle est avec nous, tiens, Elisabeth Goulet. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour Hamid, comment vas-tu? Bonjour à chers amis auditeurs de la Radio Mass.
Quel plaisir de te retrouver pour parler de toute l'actualité du football, notamment Côte d'Ivoire. Si tu le permets, Elisabeth, on démarre par la Champions League et cette grosse déception pour l'ASEC d'Abidjan qui n'a pas passé le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et j'ai vu que les supporters grognent contre Roger Ognine après l'élimination contre l'Espérance de Tunis.
Oui, effectivement, ça a été une désillusion pour l'ASEC Mimosa, pour les actionnaires comme on appelle les supporters de l'ASEC. Ça a été également une désillusion pour toute la Côte d'Ivoire, le premier ministre qui était au stade et autres pour assister vraiment à cette à cette rencontre à SEC Mimosa Espérance de Tunis, parce que vu la prestation, la performance de la SEC jusqu'à ce niveau, nombre d'entre les supporters croyaient vraiment en une qualification, un retour en une qualification en demi-finale, un retour vraiment fantastique de la SEC Mimosa sur la scène continentale. Hélas, la SEC a été freinée par l'Espérance de Tunis, une équipe qui en voulait après les nombreuses défaites face à la SEC Mimosa et autres. C'était vraiment une revanche pour les espérantistes. Mais il faut dire qu'au niveau des supporters, ça a été vraiment une désillusion parce que ils avaient beaucoup espéré, raison pour laquelle ils ont effectué le déplacement, toutes les communications qui ont été faites et autres. Donc c'est de bonne guerre qu'ils soient mécontents du président du conseil d'administration, Roger Wognin, ouais. Et donc certains accuse d'être à la base de cette élimination parce qu'ils se disent que n'eût été les ventes intempestives des joueurs. À chaque fois, il faut vendre des joueurs et autres. La SEC aurait eu une performance meilleure par rapport à celle qu'elle a eue, se faire éliminer en quart de finale. C'est vrai que la SEC se fait éliminer en quart de finale, mais toutefois, il faut dire que la performance de la SEC dans cette compétition permet à la Côte d'Ivoire d'accroître le nombre d'équipes qui participeront désormais à la compétition, aux compétitions de la Confédération africaine de football. Donc, c'est déjà un gain pour le pays, pour la Fédération ivoirienne de football, pour le football ivoirien également. Mais toutefois, c'est quand même, c'est vrai que la SEC depuis de nombreuses années n'est pas arrivée à ce stade de la compétition, mais il faut dire que cela démontre vraiment du travail qu'il y a encore à faire au niveau du football ivoirien, même si les éléphants viennent de remporter la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais au niveau local, cette contre-performance de la SEC Mimosa démontre l'état du football ivoirien qu'il faut revoir, parce que c'est vrai que depuis un bon moment, il n'y a que la SEC seule qui caracole au sommet du football et autres. Donc, l'Hirondelle ne peut pas se faire le printemps. Donc, il faut vraiment revoir ça, permettre à d'autres équipes d'être à ce niveau, donner les moyens pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir des équipes compétitives, comme ce fut le cas autrefois avec la SEC, avec l'Africa Sport, à un degré moindre, le COE Sport de San Pedro et autres. Donc, il faut vraiment que le football ivoirien renoue avec sa notoriété, sa renommée d'antan. Et pour cela, pour y arriver, il faut une belle organisation au niveau des clubs. C'est vrai que la SEC dispose d'infrastructures, tout et tout, mais il faut que cette saignée de vente des joueurs s'arrête. Il faut aussi, c'est vrai que bon, on a vendu un seul joueur, mais ce sont quand même 11, 22 et autres joueurs que contre un club. Donc, il faut que les clubs fassent des recrutements de joueurs de talent, parce que on joue, c'est une équipe, donc c'est un groupe de personnes qui jouent, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc, il faut que le recrutement soit à la hauteur des ambitions des équipes et à la hauteur des ambitions des clubs qui souhaitent vraiment disputer des compétitions africaines. Ouais. Donc c'est tout ça qui fait que les actionnaires grognent contre Maître Roger Wognin, le président du conseil d'administration.
Mais tout à fait. La bonne nouvelle, c'est donc avoir un peu plus de clubs les prochaines éditions des compétitions continentales. La grosse déception, donc, c'était la SEC. Petite déception, c'est ce match de Ghana, initialement prévu contre les légendes européennes, qui a été annulé. Ça devait se jouer aujourd'hui. Le match des légendes annulé. Qu'est-ce qui s'est passé, Elisabeth?
Ce qui s'est passé, on n'a vraiment pas la bonne information. Bon, mais je pense que c'est une question au niveau de l'organisation, parce qu'il y a plusieurs choses qui se racontent. Bon, ils n'ont pas pu mettre à disposition tous les joueurs. Bon, beaucoup de choses se racontent, donc on met ça sur le compte des rumeurs, en attendant vraiment d'avoir l'information officielle, la véritable raison. Mais c'est une déception pour les supporters ivoiriens, pour les Ivoiriens qui vraiment attendaient de voir de plus près ces stars, ouais, qui les ont fait rêver à la télévision et autres. C'était vraiment une occasion rêvée pour les uns et les autres de toucher de plus près, si je peux m'exprimer ainsi, ces stars qui étaient attendues, et de voir vraiment que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui, après cette victoire-là, compte de plus en plus au niveau du football mondial
Bien sûr.
Aussi donner vraiment la chance aux jeunes sélectionneurs MS Payet de coacher ces stars et autres. C'était vraiment quelque chose de grand que les gens avaient rêvé, que tout le monde avait rêvé. Et les gens s'étaient apprêtés vraiment pour pouvoir suivre cette rencontre. Mais hélas, on attend vraiment d'avoir les vraies informations, la vraie explication au niveau de la fédération qui avait annoncé, qui avait donné cette information en fanfare.
Ouais, tout à fait. En parlant de Demers Faye, un dernier mot, justement, Elisabeth, il s'est montré cash par rapport aux binationaux. Il visait notamment Chimwe Bakayoko, qui est plutôt indécis, non?
Oui, c'est vraiment de bonne guerre parce que une sélection, c'est beaucoup de choses. On ne vient pas pour apprendre à jouer en sélection. On ne vient pas pour se faire un nom. C'est parce qu'on a un nom déjà. Ça veut dire qu'on a vraiment une potentiel. On est une référence. On vient en sélection. Mais à certains moments aussi, il va falloir que les joueurs, les binationaux surtout, arrêtent de narguer les sélections, parce que la plupart ont envie d'évoluer dans les sélections européennes, et c'est lorsque ça ne marche pas dans ces sélections européennes là qu'elles songent maintenant à leur sélection d'origine, c'est-à-dire de leur pays d'origine, ce qui n'est pas normal. Il faut accepter de porter le maillot de son pays avec beaucoup de fierté.
Elisabeth,
mais pas parce qu'on n'a plus de recours. Il faudrait pas que l'arrivée dans la sélection de son pays d'origine constitue, je sais pas, le dernier recours. Bon, je n'ai nulle part où partir. Donc, je m'en vais là-bas. Et là, sur ce point, vraiment, beaucoup de personnes sont d'accord avec lui. C'est vrai que Timo Bakay a une belle performance et tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment le cœur à la chose? C'est aussi le cas de Zaha, qu'ils ont été visités en Turquie. C'est vrai qu'ils ont été le visiter, lui rencontrer, lui échanger avec lui, tout et tout. Mais aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que tout ce qui lui est reproché ne sera pas repris s'il vient en sélection? Et là, le sélectionneur, il a été cash, clair, dire que tout sera en fonction de la performance dans son équipe, de sa performance dans son équipe. Et donc, il en est de même pour tous les binationaux, parce qu'aujourd'hui, je me dis, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a eu le trophée que certains maintenant se disent qu'ils doivent venir.
C'était ma question d'ailleurs, Elisabeth.
À l'amour de ce pays.
Est-ce que le fait que les éléphants aient gagné, remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ça change un petit peu certaines mentalités? Est-ce qu'il n'y a pas plus de binationaux qui veulent à tout prix jouer pour les éléphants désormais?
Si, effectivement, ça a changé beaucoup de mentalité, et tout le monde a vu l'accueil qui a été réservé aux éléphants après cette victoire, vu vraiment la manière dont les choses se sont déroulées, telle que tout le monde s'est comporté, l'ambiance, l'atmosphère, tout et tout, ça donne vraiment, ça attire les autres, les binationaux, et même pas seulement que les binationaux, même les nationaux qui sont ici, ceux qui évoluent dans le championnat, eux aussi ont envie de faire partie de la sélection. Donc, du coup, ça donne vraiment une envie de travailler davantage, d'être parmi les meilleurs, pouvoir figurer au sein de la sélection ceux qui y sont. Donc, ça fait que la porte aujourd'hui est ouverte au travail, à la concurrence et autres. Les uns et les autres devront se mettre au travail pour pouvoir être sélectionnés dans ce groupe d'Ivoire. Donc, c'est vraiment un challenge pour les uns et les autres, un défi même qu'ils se lancent souvent pour pouvoir être dans l'équipe. Donc, en même temps, c'est une occasion aussi, une opportunité pour le sélectionneur de jeter aussi un coup d'œil sur le championnat local afin d'en ressortir les meilleurs, comme le gardien Ayaï Folie qui figure au sein de la sélection. Et donc c'est vraiment un défi et un challenge pour tout le monde.
Tout à fait. Merci en tout cas, Elisabeth, et je te souhaite de passer un très bon week-end. Merci beaucoup à Elisabeth Gouli depuis la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, mes amis, parce qu'il est déjà 10h15, direction la Tunisie. Donc, grosse déception, un point, la SEC Mimosa et ses supporters. En revanche, satisfaction absolue pour le football tunisien et l'Espérance sportive de Tunis, qualifiée en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, justement, ce matin, Ahmed, mon ami, Ahmed Adela en direct de Tunisie. Bonjour, c'est Ahmed.
Bonjour Hamid, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars. Eid Moubarak, Inch'Allah, à la Jami'a al-Umma al-Islamiyya, au Chab al-Maghrib.
Allah yafdak alina wa alik. Alors parlons justement de l'espérance sportive de Tunis qui est partie ramener cette qualification parce que ce n'était pas évident. Hein. Il y avait beaucoup de craintes, mais beaucoup de satisfaction à la fin puisque l'espérance a ramené le cœur du club de l'ASEC Mimosa cette qualification après les tirs au but.
Bah, effectivement, c'est une qualification méritée, il faut le souligner déjà, parce que sur le deux matchs, c'est l'espérance qui méritait de passer. Au match aller, il y a eu au moins 5 à 6 occasions nettes de la part de l'espérance, mais le gardien de la SEC, Mimosa Folli, qui est le deuxième gardien de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire qui était présent lors de la CAN, il s'est distingué par ses arrêts décisifs, comme les attaquants tunisiens de l'espérance sportive du Tunis et les attaquants brésiliens, évidemment, qui ont raté beaucoup de buts. Ils ont buté sur les cages de la SEC, mais malheureusement,
celui qui s'est distingué, c'est Memmich. Amallah, Memmich, le gardien de l'espérance, quand même.
Non, ça c'est, je parle toujours de match aller. Match retour, on va y venir. Au match aller, Memmich n'a pas été inquiété. Au match retour, l'espérance a joué dans des conditions, vous connaissez certainement, le Maroc a payé cash, l'humidité, la chaleur, comme la Tunisie, comme l'Algérie, comme toutes les nations, nord-africains comme l'Égypte qui ont beaucoup souffert lors de la CAN. Il y avait une humidité de 80 à 85%, il y avait une chaleur de 30 degrés, la température était très élevée. Les joueurs, ils ont fait Ramadan, ils ont insisté, ils ont pris l'iftar à 1h ou 1h30 du coup d'envoi de la rencontre, dans les vestiaires évidemment. Et on a vu par exemple 2 occasions ratées par l'attaquant brésilien Rodrigo Rodriguez. Quand on lui a interrogé, il a dit que voilà, j'ai même pas trouvé le souffle, c'était très chaud, il faisait très chaud, il y avait de l'humidité. Après, comme vous l'avez souligné, c'est Memmich qui s'est distingué évidemment avec des arrêts décisifs. Et devinez quoi, quand lui a donné le micro après le match, il a dit voilà, moi je garde toujours en tête le match contre le Wydad en African Football League. J'étais absent, il était malade lors du match aller, il n'a pas joué. Au match retour, il n'a pas joué. L'entraîneur l'a fait entrer pour les penalties aux arrêts de jeu, et là il n'a arrêté aucun penalty. Il a dit voilà, depuis j'avais ce cauchemar. J'étais pas bien, je me sentais pas bien, et là c'était l'occasion pour montrer aux gens que je suis décisif. Il a arrêté les pénalties qu'il fallait arrêter, et finalement c'est une qualification méritée pour l'espérance et pour le football tunisien qui souffre. Rappelons-le, il y a un seul club au quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF, c'est l'espérance sportive de Tunis.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de voir le bout du tunnel pour la FTF, la Fédération Tunisienne de Football, avec les candidatures pour la présidence et les membres de la Fédération Tunisienne ouvertes donc depuis hier, un processus qui va se poursuivre jusqu'au 20 avril, et avec une Assemblée Générale Électorale pour le 11 mai prochain, c'est bon, on a des deadlines aujourd'hui par rapport au futur pour avancer au niveau de la fédération?
C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. La FIFA nous a rendu visite. Il y avait une délégation de la FIFA, une délégation de la CAF pour comprendre ce qui s'est passé. Toutes les listes ont été rejetées. Là, c'est un candidat en force qui revient. C'est le vice-président actuel de la Fédération tunisienne de football, qui est d'ailleurs le président par intérim, Wasf Jlaïl, qui va se présenter aux élections. Il était pressenti pour les premières élections, mais finalement, dans la surprise générale, il n'a pas présenté sa candidature en ignorant toujours les vraies causes et les vraies raisons. Mais là, il est de retour avec une liste qui est neuve, avec des candidats qui ne faisaient pas partie de l'ancien bureau. Et là, on attend que les dépôts de candidature. C'est vrai que l'ouverture pour les candidatures a été annoncée hier, mais aucune liste n'a encore présenté sa liste. On va attendre jusqu'à la deadline, et après on va voir. Mais c'est lui qui part avec les bonnes chances. Le football tunisien, il y a une restructuration qui doit être faite au niveau des sélections, même les sélections de jeunes. Rappelons-le, depuis 2004, on ne s'est même pas qualifié au JO. Les résultats lors de la dernière CAN étaient décevants. On a quitté le premier tour d'une CAN pour la première fois depuis 2013. Le niveau, plutôt le format du championnat, on va revenir au format habituel. Il n'y aura plus de play-off, play-out comme cette saison ou comme la saison passée. La saison prochaine, prochaine, on va reprendre un championnat normal avec 14 ou 16 clubs en Ligue toujours. Mais aussi, le plus important, c'est la nomination d'un nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe nationale A.
Ouais, tout à fait. C'est le plus important pour le futur et pour le football tunisien. Merci du fond du cœur à mon ami Sehmed Adela et j'embrasse beaucoup à mes amis tunisiens. À très bientôt, Sehmed, et bon week-end. À suivre dans quelques minutes, mes amis, on ira au Bénin avec notre ami Élisée Ounkpatine pour parler notamment de ces changements significatifs qui se profilent à l'horizon pour le football béninois. Et puis la RDC, Michel Tobo est avec nous notamment pour parler de Champions League. Et ça passe pour le TP Mazembe qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Bonjour Michel.
Bonjour Hamid, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci une fois encore de me donner ce petit moment justement pour intervenir en rapport avec la brillante qualification du Tout-Puissant Mazembe pour les demi-finales de la Ligue africaine de champions. Voilà, une belle qualification qui a été accueillie avec beaucoup de joie. Très clairement, vous pouvez vous imaginer, ici en République démocratique du Congo, et forcément à Lubumbashi, le fief de Corbeau, Après les 0-0 du match aller, je le disais déjà la semaine dernière, Mazembe allait certainement faire jouer sa grosse expérience justement de cette compétition pour essayer de se sortir de ce piège qui était le Petro Atlético de l'Angola, qui confirmait du fait que l'équipe n'encaissait pas de but depuis le début de la campagne de la phase de groupe de cette Ligue africaine de champions. Mais il fallait un sursaut d'orgueil du côté congolais, qui fait en sorte que Mazembe puisse être qualifié pour les demi-finales de cette compétition. C'est une bonne chose. Nous, on est évidemment contents. Ça fait 4 ans que Mazembe n'avait plus atteint ce niveau de la compétition. Ça va nous permettre justement, on va dire sur le plan comptable, nous, le groupe de voitures du Congo, de récupérer la place qu'on a perdue en Coupe de la Confédération. On espère en tout cas que la CAF va nous redonner cette place. Le fait que Mazembe a atteint cette demi-finale de la Ligue africaine de champions, ça sera encore une autre paire de manches face au national du Caire, le Al Ahly. On verra dans la mesure du possible. C'est vrai, ça sera encore un match assez compliqué. Mazembe bat difficilement le national du Caire, mais ça risquerait quand même d'être assez difficile. Mais bon, c'est un match de football. Ça se joue sur le terrain, mais il faudra plus répéter les mêmes erreurs commises lors du match aller face au Petro Atlético. C'est vrai, c'est pas le même adversaire devant. Ça sera un adversaire assez expérimenté. Un habitué, le club le plus titré même de cette compétition. Mais il faudra jouer sa chance à fond. Mazembe pourrait peut-être surprendre encore l'opinion publique sportive et nationale, pourquoi pas africaine, justement pour atteindre la finale de cette compétition. On espère, on croise les doigts que Mazembe fera une bonne demi-finale en aller comme au retour. Mais il faudra commencer, comme je disais tantôt, à maximiser justement au match aller pour tenter essayer d'aller gérer au match retour au Caire lors de cette rencontre retour. Hamid, tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à cette actualité en République démocratique du Congo en rapport avec le Tout-Puissant Mazembe et cette belle qualification à Luanda face au Petro à Ketchiko. On se retrouvera certainement le samedi prochain pour d'autres actualités ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonne continuation et et merci également à tous les confrères qui sont déjà passés ou ceux qui vont passer après moi, bien évidemment. Merci à vous et au revoir.
Merci beaucoup à Michel Tobo en direct depuis la RDC, la République démocratique du Congo. C'est vrai que Michel, ça risque d'être compliqué face à l'Elmessel en demi-finale de la Ligue des Champions. On vous souhaite le meilleur. À suivre, mes amis, dans quelques minutes, direction le Bénin avec notre ami Élisée Ounkpatine pour parler notamment de ce championnat linéaire, des changements significatifs, je vous le disais. On en parle avec Élisée juste après la pub.
مباراة جولة 25 بطولة احترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس. كلاسيكو الكرة المغربية بين الوداد الرياضي والجيش الملكي نهار السبت مع الساعة ديال العشية ملعب بشير بالمحمدية.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
merci. Merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est 10h25. Vous êtes au cœur de Mars Afrique, à toute l'actualité du football en Afrique. Alors, mes amis, après la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la RDC, direction le Bénin. Avec nous, Élisée Ounkpatine, pour parler de changements, des changements significatifs qui se profilent à l'horizon pour le football béninois. Les autorités du football, en collaboration avec le ministère des Sports, préparent activement une refonte du format du championnat local, avec pour objectif de moderniser et de dynamiser la scène footballistique nationale. Alors, concrètement, bonjour Élisée.
Merci et bienvenue au Bénin.
Merci, quel plaisir de te retrouver comme chaque samedi. Alors, dis-nous tout, Élisée, par rapport à ces changements significatifs. Qu'est-ce qui va changer concrètement dans le championnat du Bénin?
Oui, Abinda, il faut le dire, c'est que
Élisée,
championnat béninois est joué sous forme de poule. Vous imaginez que pratiquement c'est le seul pays au monde à avoir un championnat qui se dispute en quatre zones. Vous imaginez en trois zones, j'allais dire. Vous imaginez, là il y a la zone sud, la zone centre et la zone du septentrion, la zone nord. Donc chaque zone regroupe 9 clubs. Donc au total 36 clubs, donc 4 zones. Il y a 2 zones au sud, une zone au centre et une zone au nord. Donc voilà, donc ça fait déjà 4 saisons que le championnat se joue sur ce format-là, où les acteurs sportifs, les acteurs footballistiques et béninois, quelques-uns sont contre ce format, puisque pour eux, cela n'aide pas véritablement les clubs béninois à bien s'engager sur le continent, puisque ça fait déjà 5 saisons que le Bénin n'arrive plus à placer un club en phase de poule des interclubs de la CAF. C'est d'ailleurs un seul club béninois qui a réussi à passer cette étape-là, c'est bien sûr ESAE, devenu aujourd'hui l'Auto Popo. Donc vous imaginez, donc depuis l'avènement ESAE, où ESAE s'est qualifié en phase de poule, mais qui n'est pas allé très loin en Coupe CAF, puisque déjà 6 matchs en poule, 5 défaites et un seul nul, battu 2 fois d'ailleurs par le futur vainqueur il y a de cela 5 saisons, la Renaissance de Berkane. Donc vous imaginez, donc pour ces acteurs sportifs, ce format n'augure pas un lendemain meilleur, n'aide pas du tout les clubs béninois à être performants sur le continent. Donc il faudra arrêter avec cela. Un format qui a été élaboré en complicité avec le ministère des Sports, le ministre d'alors, Oswald Omeki, qui a démissionné et le nouveau qui l'a remplacé. Benoît Danton, pour lui, il faut mettre fin à ce format-là. Donc c'est sur ça que le nouveau ministre des Sports veut baser, bien sûr, ce qu'il va élaborer pour les 2 prochaines années, puisque dans 2 ans, il y aura une élection présidentielle. Donc rien ne prouve si ce jeune ministre sera reconduit par le prochain président de la République. Donc vous imaginez, donc ce nouveau ministre veut mettre fin à ce format-là. C'était le jeudi dernier au moment où il attribuait les différentes subventions à ces clubs-là, puisque aujourd'hui la première phase a déjà pris fin et on joue déjà la seconde phase, qui est à la phase aller de ce championnat, où actuellement le club légendaire, le club plus titré du Bénin, les Dragons de Lomé, sont en tête avec 24 points. Là, il s'agit de la Super League Pro. La Super League Pro, c'est cette Super League Pro qui désigne le champion du Bénin, donc c'est là.
Alors concrètement, Élisée,
on aura probablement les 2 représentants béninois pour les prochaines compétitions des clubs de la saison 2024-2025, puisque entre-temps, la fédération avait annoncé la Coupe du Bénin, mais depuis cette Coupe du Bénin, TAD a démarré. Normalement, c'était en février, mais on est déjà en avril, donc vous imaginez. Donc, est-ce que cette Coupe du Bénin aura lieu? On ne sait pas, mais une chose est sûre, dans les années antérieures, eh bien, ce sont les 2 premiers de cette Super League Pro qui représentent le Bénin au campagne africaine des clubs. Donc pour le moment, les Dragons de Lomé sont en tête avec 24 points plus 6, suivi de la JFC d'Aplahoué, l'Auto Popo 3e, Bani Ganser de Bani Kouara, la ville du coton, c'est cette ville qui produit l'or blanc au Bénin. Donc Bani Ganser est 4e, et puis Dynamo d'Abomey, la ville historique du Bénin, Abomey, son club Dynamo est 5e. Donc le champion titre Coton FC de Ouidah est classé 6e. Donc pour cette Super League Pro, la lutte pour le titre est vraiment intense, puisque aujourd'hui les 2 favoris jusqu'à à preuve de contraire, depuis 5 ans, on a toujours eu deux favoris qui se sont battus pour le titre de champion. Il s'agit bien sûr de Coton FC, le champion en titre, et bien sûr de Lotto Popo, qui a été le premier champion de ce nouveau format. Donc aujourd'hui, ces deux clubs sont en difficulté. Eh bien, Dragon d'Agen garde la tête de ce championnat. Donc dans la seconde partie, dans le second championnat, ce championnat, on l'appelle Ligue Pro Suite. Là, ça permet à ces clubs-là de maintenir leur place dans l'élite du championnat afin de ne pas être relégués en deuxième division. Donc, c'est un championnat plein down, en quelque sorte. Donc, ça concerne les 16 équipes-là qui n'ont pas pu se qualifier pour la Super League Pro. Donc, cette phase aussi est à la pause pour le moment. Et dans chacune des poules, puisque là-bas, il y a deux groupes. Il y a deux groupes, contrairement à la Super League Pro, là-bas, il y a deux groupes. Donc, la poule A est bien dominée et pas bien sûr AS Police, et la poule B par les Buffles du Bangui, le deuxième club le plus titré du Bénin, qui n'a pas pu se qualifier pour la Super League Pro. C'est une première, puisque aujourd'hui, ce club est en crise où son président a jeté l'éponge. Et donc, c'est un nouveau bureau qui est en train de gérer le club, mais n'arrive pas quand même à mettre les bases solides afin de permettre à ce club de bien s'illustrer. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui au Bénin.
Donc Élisée,
championnat à qui
Élisée. Oui, alors oui, Élisée, je voulais juste, si je comprends bien, donc à partir de la saison 2025-2026, le format actuel de la phase zonale qui impliquait 36 équipes sera abandonné. À sa place donc, le Bénin optera pour une structure comprenant une première, une deuxième et une troisième division. Est-ce que tu penses que ça se fera? Est-ce que tu penses que ça se fera pour la saison prochaine?
Ça ne ressort pas de la décision du ministère, puisque là, ça fait une affaire d'ingérence. Donc, cela ressort de ces présidents de club-là. Et puisque la décision de permettre à ce championnat de jouer en format de 4 poules de 36 équipes, ça a été décidé en assemblée générale ordinaire. Donc, il faudrait que cette décision soit cassée encore en assemblée générale. Donc, pour vous dire la vérité, certains présidents de club ne sont pas pour. Donc, la pression actuelle du ministre est que si ces dirigeants de club n'acceptent pas, le gouvernement va simplement abandonner les subventions. Donc, voilà un peu la pression qui est en train d'être exercée sur ces dirigeants de club qui ne veulent pas abandonner cette formule à 36 clubs. Donc, on espère voir que ce championnat abandonné. Donc, tout dépendra de la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura lieu probablement en juillet prochain, puisque cette assemblée a souvent lieu à un mois du démarrage du championnat. Donc, cela dépendra de la décision de ces dirigeants du club qui vont certainement dire non, puisque aujourd'hui la pression est énorme. Le gouvernement ne va plus les accompagner au cas où ils vont continuer avec ce format. Même maintenant, s'ils abandonnent, eh bien, le gouvernement va continuer par octroyer ces subventions, puisque c'est colossal ce que investit aujourd'hui le gouvernement dans le football béninois. Vous êtes sans savoir que le gouvernement construit des stades qui peuvent permettre à ces différents clubs de qui évoluent en première division, première, deuxième ou même en division amateur, d'avoir un bon stade qui quand même sont dans les normes. Hein, donc vous voyez donc 24 stades qu'on ne sait pas, des grands stades, mais ces stades-là peuvent permettre quand même à chaque club de prendre part au championnat. Donc aujourd'hui, le gouvernement octroie près de 60 millions de francs CFA, environ 91 000 euros et 40 millions pour les clubs qui évoluent en Ligue Pro Suite. Donc, c'est un colossal ce que met le gouvernement aujourd'hui dans le football béninois. Donc, ces dirigeants de clubs n'ont pas le choix. S'ils veulent continuer pas à bénéficier de cette subvention-là, ils ont l'obligation de mettre fin, de mettre terme, bien évidemment, à ce format de championnat qui se joue avec 36 clubs.
Tout à fait. Merci beaucoup à Élisée Nkoupatine pour toutes ces informations, et je te souhaite de passer un très très bon week-end au Bénin et à la semaine prochaine. À suivre, mes amis, dans Mars Africa, dans quelques minutes, on ira au Mali avec notre ami Drissa Nyoyo. On aura avec nous William Tchango qui nous parlera de cette guéguerre, de ce bras de fer entre Samuel Eto'o, président de la Fédération Camerounaise de Football, et le ministère des Sports. Mais d'abord, Sidiké Diabaté Pantélé Les jaloux.
Le mot pétré. P A bon I N T E E pétré. Ah, Denis Barana. Chérie Barana. Nadia Yamuso Barana. Madame Jawate Barana. Ah, Denis Barana.
Sur Radio Mars, il est 10h38. Mars Africa se poursuit après donc la Côte d'Ivoire, la Tunisie, la RDC, le Bénin, direction le Mali ce matin avec nous. Drissa Nyonyo, bonjour Drissa.
Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là parmi nous ce matin pour nous parler notamment de cette déception, la déception du stade malien éliminé par Dreams FC. On s'attendait à l'exploit suite au match aller. Malheureusement, l'exploit n'a pas eu lieu un partout. Qu'est-ce qu'on dit justement de cette élimination du stade malien de Coupe d'Afrique?
Alors, c'est une grande déception, hein, comme vous l'avez dit, Monsieur Roussi. Dans la mesure où ce club Dream FC a été créé l'année à laquelle le stade a été sacré dans cette compétition de la Coupe de la Confédération. Et finalement, ici à Bamako, c'est vrai que les supporters étaient partagés entre ceux qui étaient optimistes pour une qualification et ceux qui étaient pessimistes pour dire que c'était la fin de ce parcours. Finalement, ça a été la fin de ce parcours des Blancs cette année en Coupe de la Confédération. Alors, ça peut s'expliquer par différents volets. Là, le premier, on peut parler également du remplacement de l'encadrement technique à une semaine, à quelques jours seulement du match aller. Le coach qui avait débuté les travaux, il s'agit du coach Bakosek, qui a été début de ses fonctions au niveau du club, on dit, suite à une analyse approfondie de la situation sportive, Il faut reconnaître que le Stade restait quand même sur 6 matchs sans victoire à domicile et allait attaquer ce match. Donc, les Blancs, au niveau de la direction, ils voulaient un peu du temps nouveau pour citer le prochain qui pourrait les amener du sang nouveau et de l'air fraîche dans les esprits. Mais finalement, ça a été une défaite à domicile face aux gagnants de Dream Chantier. Et finalement, au match retour, même scénario qu'au match aller. C'est vrai que le Stade a marqué. Ensuite, les deux MC va égaliser finalement. C'est sur ce score nul-là que s'achève cette aventure des Blancs de Bamako. En tout cas, c'est une très, 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 très grande déception ici. Ouais. Et au sein des supporters du Stade Malien de Bamako, on commence déjà donc, à douter de la capacité de Mamoutou Kani Mourlet à guider cette formation. Et d'aucuns, certains également estiment déjà qu'il est sur la route d'un certain Thomas Tourelle qui avait été appelé l'année dernière par le Bayern de Munich en remplacement de Julian Nagelsmann. Mais finalement, le Bayern qui était en course pour les titres, que ce soit au niveau local et en Europe, a été finalement éliminé de toutes les compétitions. Et cette fois-ci, le Stade est éliminé de la Coupe de la Confédération. Le Stade doit jouer lundi en Coupe du Mali et ensuite continuer également son chemin en championnat. Et pour l'instant, il est distancé par le Duluba Athletic Club de 10 points. Et en attendant, il va affronter l'Association sportive du Burkina Faso. Et là également, des doutes continuent à persister sur la capacité du
Pardon de te couper parce qu'on a visiblement quelques petits soucis, quelques petits problèmes de liaison. J'espère que ça va marcher parce que la grosse déception, bien entendu, c'est l'élimination du Stade, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe de la CAF. En revanche, il y a une bonne nouvelle puisque dans les mois à venir, le comité exécutif de la fédération, en accord avec la FIFA, compte réaliser un stade de 15 000 places dans le futur centre technique déjà en chantier. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça, c'est l'annonce faite par le président réélu Mamadou Touré, puisque la 51e Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Malienne de Football s'est tenue samedi, il y a une quinzaine de jours, le samedi 30 mars à Bamako. C'est la bonne nouvelle, un nouveau stade en chantier de 15 000 places.
Bon, donc, c'est le centre, ce nouveau stade-là sera bâti dans... Ce nouveau stade sera bâti dans le nouveau centre technique de la Fédération Malienne de Football qui est en cours de construction juste à côté de l'aéroport international du président Bourbon qui est à Sinou de Bamako. Alors, avant cette nouvelle, c'est qu'il y avait une visite de celui qui est chargé, de Fernandez. Fernandez avait fait un voyage ici à Bamako, celui qui est chargé de l'Afrique, des associations, surtout au niveau de la FIFA. Il s'agit de Fernandez, un ancien joueur de City, l'ancien international suisse, qui est aujourd'hui du côté de Madagascar. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il y a un nouveau centre technique qui est en cours de construction. Ça concernait le FIFA Forward 2.0, la FIFA, qui avait offert au Mali ce second centre technique après celui de Caillou. Akai qui n'a pas finalement vu le jour, mais finalement c'est ce second centre technique qui est en cours de construction et dans lequel il va y avoir ce nouveau stade. C'est vrai, l'information il a été annoncée par le vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Malienne de Football. Oui, les travaux sont à 70% de réalisation. Ça, c'est le premier volet. Et ce nouveau stade va être bâti comme un second volet dont les fonds vont être disponibles dans les jours à venir pour terminer et poursuivre avec les travaux. Ceci étant, concernant le premier volet, il y aura des salles de conférence, des hôtels pour les équipes, un hôtel pour l'équipe nationale senior, des chambres et des hôtels également pour... ceux qui auront la chance d'intégrer pour la première fois le centre technique. Il s'agit d'un futur aigle, que ce soit en dame ou en fille ou en garçon. Ensuite, il y a trois terrains déjà qui sont en cours de construction également, mais ce sont des terrains simple, deux en synthétique et un naturel. Donc, toutes ces réalisations rentrent dans le cadre du FIFA, du projet FIFA Forward que le Mali a bénéficié et comme les autres fédérations continuent d'en bénéficier. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que ici à Bamako, en plus des stades qui sont en train d'être rénovés, le Mali a pour ambition également de se faire un nouveau centre technique et qui pourrait également permettre de faire sortir des nouveaux aigles qui vont encore aller défendre les couleurs nationales du Mali.
Tout à fait, pour le bien du football malien. Merci beaucoup à Drissa Nyonu en direct depuis le Mali. Après le Mali, direction le Cameroun, mes amis, je vous le disais, engagé dans un bras de fer avec le ministre des Sports suite à la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de Football, a reçu un message indirect, mais très clair, en provenance de son ministre de tutelle. Marc Brice a été officiellement donc intronisé lundi dernier. Une réunion était prévue justement entre la FECAFOOT et le ministère et le ministre Narcisse Mouelekombi. William Tchango est parmi nous ce matin pour nous parler de cette guéguerre entre finalement deux personnes. Et tout d'un côté, le président de la fédération et puis le ministre des Sports Narcisse Combi. Bonjour William.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les panélistes. Merci. C'est un plaisir d'être là ce matin avec vous.
Le plaisir est partagé. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe donc et qu'est-ce qui va se passer? Marc Brice intronisé donc lundi dernier en tant que coach des Lions Indomptables. La guéguerre se poursuit entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o?
Oui, absolument, elle se poursuit. C'est une situation assez rocambolesque. Avec d'un côté le président de la fédération qui est déterminé à ne pas reconnaître ces nominations du ministre des Sports, et de l'autre côté le ministre des Sports fait valoir une décision prise dans le sillage du discours du président de la République le 10 février à la jeunesse qui entre autres appelait le gouvernement et plus particulièrement le ministère des Sports et de l'Éducation physique à reprendre les choses en main après les résultats catastrophiques des Lions Indomptables lors des dernières compétitions, notamment lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire où le Cameroun a pu faire mieux qu'un huitième de finale. Donc fondamentalement, il s'agit d'un problème d'interprétation des textes, puisque chacun fait valoir des arguments juridiques en sa faveur. La fédération invoque notamment le décret du 26 juillet 2014 qui confie la gestion administrative, sportive et technique des sélections camerounaises à la Fédération camerounaise de football. Donc, elle se base sur ce décret-là pour marteler que c'est à elle que revient la décision de nommer des responsables à la tête des Lions Indomptables. De l'autre côté, le ministère des Sports et de l'Éducation physique brandit, quant à lui, la convention MINSEF-FECAFOOT signée le 5 février 2015. Donc, et dans l'article 9 de cette convention, là, il est stipulé que le ministère a la possibilité de mettre des personnels à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Mais jusque-là, il y a une interprétation qui se fait. Alors, beaucoup se disent que si le personnel y est envoyé par le ministère au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est bien sûr le personnel relevant de la fonction publique. Donc, c'est véritablement un problème d'interprétation et on n'est pas sorti de l'auberge. Mais ce qu'on note notamment et clairement, c'est que la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique intervient dans le sillage du discours du chef de l'État le 10 février qui faisait savoir qu'il a demandé justement au gouvernement et principalement au ministère des Sports de reprendre les choses en main pour remettre de l'ordre au sein de la sélection camerounaise qui a du mal à faire des résultats et qui a présenté un visage, je vais dire quoi, pas peu appréciable lors de la CAN en Côte d'Ivoire qui vient de se terminer.
Tout à fait. On n'a pas peur de sanctions avec une forme d'ingérence d'un gouvernement dans les affaires d'une fédération? Parce que là, on n'est pas encore sorti de la crise.
Alors, je pense que c'est Oui, c'est dans l'air, et ça peut être là la dernière carte de la Fédération Camerounaise de football pour faire basculer les choses. Mais maintenant, puisque la Fédération, lors à l'issue d'une réunion du comité d'urgence, a annoncé qu'elle allait nommer un autre staff à la tête de la sélection camerounaise de football. Donc c'est, on se dit au Cameroun que c'est peut-être le Rubicon à ne pas franchir, parce que c'est ce qui définitivement interpellerait la FIFA et qui mettrait le Cameroun dans une position inconfortable. Donc je pense que actuellement c'est une possibilité pour la fédération, mais je n'imagine pas véritablement Samuel Eto'o et ces gens aller jusque là, parce que quoi qu'on dise, il y a ce discours du président de la République qui justifie les actes du ministère des Sports, même si à un niveau, on peut peut-être se dire que cette décision normalement devait revenir à la fédération. Donc, il y a cette possibilité. Et on espère que les négociations vont se faire pour qu'on n'arrive pas à ce niveau-là.
Ouais, tout à fait. On espère de tout cœur que ça va s'arranger, parce qu'on a besoin des lions indomptables en Afrique. Merci beaucoup à William Tchango et à très bientôt la semaine prochaine sur Radio Mars dans Mars Africa. On va terminer ce tour d'horizon de l'actualité foot en Afrique par le Burkina Faso. Tiens, avec mon ami Jean-Modeste Ouedraogo. Bonjour Jean-Modeste. Jean-Modeste Ouedraogo sera parmi nous, notre correspondant Burkina Faso, pour nous parler de ce football burkinabé vers un nouveau départ après la crise entre les clubs et la fédération burkinabaise de football. La ligue de football professionnel est sur le point de connaître un nouveau départ avec la reprise annoncée des championnats nationaux. Elle a organisé une conférence de presse jeudi dernier pour annoncer les conditions de cette reprise. Il est avec nous, Jean-Modeste, et tant mieux. Alors, quelles sont ces conditions pour la reprise? Ça devrait s'arranger pour le football au Burkina Faso, n'est-ce pas Jean-Modeste? Bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mass. Effectivement, le football va rouler au Burkina parce que effectivement les acteurs se sont accordés sur un certain minimum pour terminer ne serait-ce que la saison, parce que oui, il y avait une grève des clubs qui exigeait le paiement d'une subvention qui tardait à venir, et donc finalement tout est rentré dans l'ordre, et je crois que le 17 avril sera donc la bonne date pour reprendre le championnat. Mais il faut le dire, c'était très difficile pour tout le monde, c'était très très compliqué pour tout le monde, parce que oui, cette crise n'avait que trop duré, hein, parce que effectivement les clubs sont un peu en difficulté au Burkina, les clubs sont tout simplement en galère.
Ouais, c'est pas faux, effectivement. Donc on peut être optimiste pour la suite, hein, ça devrait reprendre incessamment sous peu, en tout cas pour la fin du mois. Jean-Modeste.
Oui. Ouais.
Donc tout va bien. En tout cas, on est hyper optimiste par rapport à la reprise de ces championnats, par rapport à la Ligue 2. Ils ont jusqu'au mois de juin, me semble-t-il, non?
Ah oui, parce que le programme est très très chargé. Ouais. Il y a plus de 500 matchs à jouer, donc en deux mois et demi, et ça va être très harassant, ça va être très compliqué, ça va être très éreintant pour les acteurs. Et je peux vous dire qu'ici à Ouaga, les supporters sont un peu optimistes, pas trop optimistes, mais un peu optimistes, parce que déjà pour la reprise au niveau des entraînements, il y a des grèves encore. Et cette fois-ci, ce sont les joueurs qui sont en grève. Il y a deux ou trois clubs qui n'ont pas encore repris les entraînements parce qu'il y a des arriérés de salaire, et ça, c'est pas très beau, c'est pas bien, et ça laisse un doute le début réel des championnats. Mais on ose espérer que d'ici le 17 avril, les choses rentreront dans l'ordre pour que enfin le Burkina puisse renouer avec le football, puisque voilà, les championnats sont à l'arrêt, et jusqu'en mi-juin pour les championnats, et fin juin pour la Coupe du Faso, qui est la Coupe nationale. Et donc il faut dire que c'est très très compliqué actuellement, mais dans tous les états-majors de façon générale, les gens sont optimistes. Et on pense qu'on pourra reprendre le 17.
Et on l'espère aussi. Merci beaucoup à Jean-Modeste Ouedraogo en direct Ouad Ouagadougou au Burkina Faso. Il est déjà 10h55. Un grand merci à tous nos correspondants un peu partout en Afrique. Elisabeth Gouli depuis la Côte d'Ivoire. Ahmed Adela de Tunisie. Michel Tobo de la République démocratique du Congo. On a eu Élisée Onkpatine du Bénin. Et puis Drissa Niolo du Mali. Sans oublier mon ami William Tchango du Cameroun. Il est 10h55. C'est la fin de Mars Africa. Je vous donne rendez-vous lundi pour Mars attaquer la matinale. Très bon week-end sur Radio Mars.